cette nouvelle émission Au Bon Soin, l'émission du magazine Sané. Aujourd'hui, je reçois Pauline Marty, qui est psychologue et psychothérapeute, et toujours avec notre intervenante Daphné Guyot, qui est psychologue aussi et psychothérapeute. Donc on va parler aujourd'hui des pervers narcissiques, qui est un sujet qui a été très très abordé, autant en radio, en émission de télé, que sur écrit dans les magazines. On en a beaucoup beaucoup parlé et on s'y perd un peu au final. Alors déjà bonjour Pauline.
Bonjour Stéphanie.
Et bonjour Daphné.
Bonjour Stéphanie.
Donc le pervers narcissique, on en parle, mais alors qu'est-ce que c'est un pervers narcissique, Pauline ?
Alors, qu'est-ce que c'est un pervers narcissique ? Bon, au risque d'être un petit peu scolaire, je vais essayer de définir au mieux ce que c'est que cette perversion. Qu'est-ce qui en fait sa spécificité ? Surtout que, ben voilà, comme tu le disais Stéphanie, le terme a été beaucoup galvaudé depuis un certain temps qu'on emploie ce terme-là. On ne sait pas toujours pourquoi on l'emploie et si c'est toujours adapté de l'employer. Donc déjà, la racine latine du mot perversion, ça veut dire « retourner, renverser ». Et ça signifie le changement du bien en mal. Donc on distingue deux grandes classes de perversion, celle d'ordre sexuel et celle à caractère moral et relationnel. Et c'est dans cette seconde classe que se positionne le pervers narcissique. C'est le psychiatre et psychanalyste Paul-Claude Racamier qui est le premier à avoir décrit le concept de pervers narcissique en 1986. Psychopathologie jusque-là peu connue, donc c'est un thème qui est assez récent en fait, la perversion narcissique. Un pervers narcissique, c'est quoi ? C'est un individu qui est atteint d'un trouble de la personnalité narcissique. Donc c'est quelqu'un qui dispose d'une structure psychique qui utilise la relation pour assouvir ses pulsions, donc par des actes réalisés aux dépens d'autrui, sans éprouver la moindre culpabilité. Il peut utiliser le lien familial, le lien professionnel ou amoureux pour assujettir l'autre. En fait, on peut le trouver sur tous les terrains. Et par définition, donc, il est à la fois narcissique, de par son égocentrisme, son obsession pour son image sociale, sa quête excessive et permanente de reconnaissance et d'attention, et aussi pervers, de par son comportement manipulateur, destructeur, utilisé pour exercer une emprise sur ses victimes. Donc il faut comprendre que le pervers narcissique, il ne perçoit pas l'autre comme un sujet, mais plutôt comme un objet. Un jouet qu'il va pouvoir utiliser à sa guise. Il est dangereux de par sa toxicité abusive et il l'est d'autant plus que c'est extrêmement difficile de le démasquer et de l'identifier, pardon, tant il va manier le mensonge et la manipulation à la perfection. Juste une petite précision, si j'utilise l'expression du pervers narcissique, c'est vraiment juste pour faciliter la compréhension. Parce que la perversion narcissique, elle ne doit surtout pas être associée qu'au masculin, puisque les femmes peuvent être autant perverses narcissiques que les hommes. Et nous parlons d'ailleurs souvent de la combinaison d'un homme pervers narcissique et d'une femme victime, mais l'inverse existe. Comme on peut avoir une femme perverse narcissique avec une femme victime et un homme pervers narcissique avec un homme victime aussi. Voilà.
Oui, donc il n'y a pas de genre, d'histoire de genre, c'est pas forcément les hommes qui sont plus pervers que les femmes.
Non, on peut retrouver tous les cas de figure en matière de perversion, en fait. Mais souvent, on entend parler plutôt du cliché, voilà, comme je disais, homme pervers et femme victime, plutôt que du reste, qui existe aussi pourtant. Hein.
Oui, bien sûr. Alors, tu parlais, c'est quand même une grosse histoire de manipulation, de ce que je comprends. Et quelle est la différence entre un pervers narcissique et un manipulateur on va dire simple, entre guillemets, mais voilà, il y a quand même une différence.
Alors, on peut dire que si tous les pervers narcissiques sont des manipulateurs, ça c'est sûr. Mmh. Tous les manipulateurs, effectivement, ne sont pas pour autant des pervers narcissiques. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de faire attention aux étiquettes trop hâtives et trop définitives. En fait, ne peut être considéré comme pervers narcissique que celui qui utilise de façon prolongée les mécanismes dont on parlera probablement par la suite, le recours juste temporaire à certains des procédés qu'on va aborder ne suffisent pas pour qualifier quelqu'un de pervers narcissique. Ce qui marque la différence, on va dire, entre un comportement pervers et un comportement non pervers, c'est vraiment le but, l'intention, la conscience et la récurrence du comportement. Chez un manipulateur simple, entre guillemets, Le but ne va pas forcément être de détruire l'autre. Ça peut être juste pour se mettre en avant, pour attirer l'attention, ça peut être pour saisir une opportunité de quelque chose, mais pour autant, il ne va pas éprouver une jouissance sadique ou vouloir à tout prix exercer une emprise sur l'autre, en fait. Et puis, il y a aussi des manipulations de la vie courante, entre guillemets. Je crois que ça nous arrivait à tous de mentir pour protéger quelqu'un, parce qu'on était peut-être gêné ou blessé de quelque chose, de ne pas dire toute la vérité. Donc, toutes ces manipulations-là, elles n'entrent pas du tout dans le champ, après, la perversion narcissique. C'est vraiment deux choses différentes, en fait.
D'accord. Alors, est-ce qu'on est pervers narcissique ? Alors, on le devient.
On ne naît pas pervers narcissique, on le devient. Souvent, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a grandi dans une famille qui dysfonctionne, dans le sens où déjà au moins un des deux parents est toxique. C'est quelqu'un qui a vécu généralement très tôt des traumatismes, des violences, des abus durant son enfance. Et du coup, ces traumatismes l'ont amené, pour survivre en fait, à se dissocier de son corps. C'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a appris très tôt à fonctionner dans le déni de son corps, dans le déni de ses sensations et de ses besoins. En fait, c'est quelqu'un qui fonctionne de manière mécanique, sans empathie pour autrui. C'est quelqu'un qui ne se remet jamais en question. Et souvent, il va fonctionner aussi en identification aux parents toxiques. Donc, c'est vraiment pour se protéger qu'il s'est dissocié de ses émotions. Et c'est cette dissociation qui lui permet petit à petit d'arriver à ses fins sans aucun remords. Les émotions sont complètement inexistantes pour lui et ne sont qu'une porte d'entrée pour manipuler autrui. Donc enfin, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a déjà une image dévalorisée de lui-même. Il a des blessures narcissiques et il va tenter de se valoriser en rabaissant les autres. Sa vision du monde, elle est complètement erroné, tout est faussé, déformé pour maintenir un délire de perfection et de toute puissance. Pour faire simple, en fait, on peut se dire que le pervers narcissique, sur le plan affectif et émotionnel, il est resté immature. C'est comme un petit enfant dans un corps d'adulte, en fait, mais un enfant dangereux, pour le coup.
Donc, du coup, c'est quand même quelqu'un qui est en souffrance. Alors, Daphné, est-ce que peut-être tu peux rebondir sur le sujet si on se découvre pervers narcissique, admettons, on a une prise de conscience de se dire « Bon, ben là, oui, effectivement, j'ai tout ce qui colle à ça. » Est-ce que c'est quand même quelqu'un qui souffre aussi, de ce que j'ai compris, de ce que tu disais, Pauline ? Alors, si on se rend compte qu'on est peut-être pervers narcissique, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ?
Ouais, effectivement, comme tu le dis, hein, à la base, et comme à la base de nombreux troubles, voire la plupart des troubles psychopathologiques, il y a une souffrance. Il y a une souffrance qui cause des comportements, qui cause des mécanismes de défense qui se mettent en place. Et donc, pour le pervers narcissique ou la perverse narcissique, c'est exactement la même chose. Souvent, il y a aussi une répétition des choses qu'ils ont vécues, c'est-à-dire que ces mécanismes de destruction qui mettent en place contre l'autre, l'objet d'amour qui souvent va être la victime, donc ça va être des disqualifications, des humiliations, des valorisations. Souvent, c'est des choses qu'eux-mêmes, ils ont vécues justement enfant, parmi ces violences, et qui vont avoir provoqué finalement la nécessité d'une mise en place de mécanismes de défense. Des mécanismes de défense qui, justement, ont créé finalement cette personnalité narcissique. Quand on peut avoir à certains moments effectivement une prise de conscience, justement à la suite d'une relation avec une victime peut-être qui a réussi à se défaire entre guillemets des griffes du pervers narcissique ou de la perverse narcissique et qui va émettre des accusations, un entourage qui peut-être va aussi émettre des accusations, des remises en question, et il peut y avoir une prise de conscience. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ? Tout simplement, comme de nombreux troubles psychopathologiques, on peut aller voir un psychologue, un psychothérapeute, et se mettre à travailler justement sur ça. Alors, c'est pas si évident à travailler s'il n'y a pas de prise de conscience, parce que il peut y avoir certaines personnes qui vont consulter parce que leur entourage vraiment a insisté, mais eux, ils ne vont pas vraiment croire qu'ils en ont besoin. Là, c'est plus compliqué. Mais quand la personne veut quand même se mettre au travail, du coup, on peut travailler tout simplement à la base du transfert, par exemple, et donc dans les interactions patient et thérapeute, amener une réflexion sur les réactions de la personne dans son entourage pour examiner un peu certaines images exagérées, déformées et réalistes justement qui ont lieu dans sa vie et les reprendre en session pour essayer aussi de travailler sur le moment actuel plus que dans le passé. C'est-à-dire questionner les sentiments actuels qui ont lieu pendant la session, par exemple, pour pouvoir amener justement une perspective qui va être évolutive et qui ne va pas rester figée sur ces perturbations finalement émotionnelles comme, qui sont restées figées depuis l'enfance, a priori. Après, une autre approche, ça peut être de travailler sur les schémas et sur la mentalisation. Et donc là, on va se centrer plutôt sur ces façons inappropriées de penser, de ressentir, de se comporter ou de s'adapter dans la vie que le ou la perverse narcissique vont avoir développé. Et donc, avec la création d'un lien sécurisé entre le patient et le thérapeute, là, on va pouvoir permettre au patient de faire l'expérience de quelque chose qui va être beaucoup plus adapté, beaucoup plus sécurisant, et donc de venir toucher à ces schémas et créer une identification sur des nouveaux schémas à l'aide de, en premier temps, identifier les mauvais schémas, je dirais, dans son quotidien, et ensuite essayer de remplacer cela par des schémas et des comportements plus adaptés.
Mais c'est quand même une véritable prise de conscience de soi-même et de cette maladie, on peut appeler ça une maladie ?
Alors, oui.
Psychologique, je ne sais pas si on
peut. On appellerait ça un trouble psychopathologique. Moi, j'ai du mal avec le terme maladie, mais ça peut rentrer là-dedans. Mais en tout cas, oui, il faut un minimum de volonté de se remettre en question. Sans ça, c'est comme de nombreux troubles psychopathologiques, le travail n'est pas possible sans la volonté de mettre au travail, je dirais.
D'accord. On va faire une petite pause musicale pour mettre un peu de légèreté dans tout ça. Pauline, tu as choisi quoi comme musique ?
Alors, j'ai choisi Linger de The Cranberries, qui parle de la relation toxique. Donc, c'est complètement dans le thème. C'est pour cette raison que je l'ai choisi.
Ça marche. On écoute ça et on se retrouve juste après.
Wanna be with you, and I mean so deep.
De retour pour l'émission Au bon soin, l'émission du magazine Sané, en compagnie de notre chroniqueuse Daphné Guyot, qui est psychologue et psychothérapeute, et de notre invitée du jour, Pauline Marty, également psychologue et psychothérapeute, sur le sujet des pervers narcissiques. Alors, on a parlé un petit peu de l'origine du mot, déjà, pervers narcissique. On a donné une définition. Et alors, la question... c'était donc comment on devient pervers narcissique. Non, ça on l'a déjà abordé. Je suis perdue. Comment on reconnaît un pervers narcissique? C'est-à-dire que si on croise quelqu'un ou qu'on partage sa vie avec quelqu'un, comment on peut se dire tiens, cette personne est peut-être perverse narcissique, femme ou homme?
Alors en apparence, en fait, le pervers narcissique, c'est l'homme parfait ou la femme parfaite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se présente avec des qualités humaines, des valeurs très fortes. On peut avoir face à nous quelqu'un de très empathique, très humaniste, dévoué, charmant, impliqué même souvent dans des associations, dans l'humanitaire par exemple. En réalité, on peut dire que ce sont des comédiennes nées, car tout va être stratégique et maîtrisé dans la relation à l'autre. Tout va être fait de manière en fait à ce que le pervers narcissique obtienne quelque chose de l'autre dans la relation, dans le but de le détruire. Il se nourrit, il jouit essentiellement de l'anéantissement progressif de l'autre. Donc on va retrouver d'autres caractéristiques chez lui, bien sûr. On peut observer un côté mégalomane, ça peut être quelqu'un qui pense être spécial et unique, donc qu'il a des droits spéciaux. On peut retrouver un besoin excessif d'être admiré, d'être perçu comme irréprochable. Il est obsédé par son image sociale. C'est quelqu'un qui vampirise l'énergie de l'autre, qui le bouffe, qui l'épuise, on pourrait dire le vide de son âme à petit feu, hein, il y a un peu cette idée-là. C'est quelqu'un qui va être dénué d'empathie, qui peut faire preuve vraiment de froideur émotionnelle. Ce qu'il utilise beaucoup, c'est le dénigrement, la disqualification permanente, puisque son but, ça va être de faire se remettre en question constamment sa victime, de la faire douter de soi, de la réalité, pour provoquer l'illusion que cette personne n'est rien sans lui. D'ailleurs, c'est une phrase qu'on peut souvent entendre de la part des victimes. Il me disait que sans moi, je n'arriverais à rien. Que sans lui, je n'étais rien, en fait. Voilà. Il utilise aussi la culpabilisation permanente de l'autre. Il va inverser les rôles, se victimiser, se déculpabiliser, avec des phrases par exemple comme « C'est ta faute si je te frappe parce que tu es comme ceci ou tu as fait comme cela ». Comme cela, par exemple, ça peut être ça. Il est incapable de se remettre en question ou de s'excuser, sauf par pure stratégie. On retrouve aussi souvent une stratégie d'isolement de la victime par rapport à son entourage pour mieux la contrôler, où il va générer des conflits avec l'entourage aussi de sa victime. On peut retrouver aussi l'intimidation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut provoquer des crises violentes, se mettre en colère, hausser la voix, ou même frapper afin de soumettre l'autre à ses désirs pour que l'autre ait peur, en fait. C'est quelqu'un qui maîtrise extrêmement bien le double jeu, c'est-à-dire un côté charmant en société et vraiment tyran destructeur en privé. Il alterne le chaud et le froid dans le discours, il va communiquer de manière floue. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup de messages paradoxaux, d'injonctions paradoxales, ce qui va créer la confusion en fait chez la victime. Et c'est quelqu'un qui ment énormément. En fait, on va remarquer qu'il y a une incohérence entre ses paroles et ses actes. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut retrouver.
Beaucoup, ça fait beaucoup. En fait, globalement, c'est quelqu'un qui crée la confusion vraiment chez sa victime pour pouvoir avoir l'emprise totale sur elle ou lui, quoi.
Tout ce qu'il va pouvoir mettre à son service, en fait, pour que ça soit à son avantage dans la relation, va être bon. Donc là, j'ai parlé de beaucoup de caractéristiques, mais n'oublions pas que chez les pervers narcissiques, c'est comme chez tout être humain, chaque personne est différente. Donc c'est juste pour que ça donne un aperçu global, mais bien évidemment, on peut en retrouver d'autres. En tout cas, tout ce dont il va pouvoir se saisir pour assujettir l'autre... Il va les utiliser, en fait.
Il utilise un peu les points faibles de sa victime contre elle, en fait.
Exactement.
Ouais. Et alors, justement, est-ce qu'il y a une sorte de profil de victime? Est-ce que certaines personnes sont plus susceptibles, justement, d'être attirées par un pervers narcissique ou une perverse narcissique?
Alors, on ne peut pas parler de profil type de victime d'un pervers narcissique parce que tout le monde, en fait, peut être victime d'un pervers narcissique, même quelqu'un qui a un fort tempérament, qui dit qu'elle sait s'affirmer, quelqu'un qui a, en fait, une certaine force de caractère, peut tomber entre les griffes d'un pervers narcissique parce que c'est quelqu'un qui va s'attaquer précisément aux failles de la personne. Donc, tout le monde ne peut y être sujet. Par contre, c'est vrai que certaines personnes sont plus susceptibles de tomber sous l'emprise d'un pervers narcissique. Par exemple, les personnes qui ont une forte empathie, les personnes qui tombent facilement dans la dépendance affective ou qui se trouvent dans un moment de détresse momentanée, qui vivent un deuil, une séparation, un moment de fragilité. Les personnes qui ont un manque important d'estime de soi, qui alimentent des croyances, voilà, qu'elles ne valent peut-être pas grand-chose ou ne sont pas méritantes. Et aussi les personnes qui nourrissent une culpabilité importante et qui culpabilisent très facilement, en fait. Mmh. On peut retrouver tous ces traits-là qui vont être des failles dans lesquelles le pervers narcissique va pouvoir facilement s'engouffrer, en fait.
Oui, en fait, il se sert vraiment des failles et on a tous des failles.
Exactement, c'est ça. C'est pour ça que tout le monde peut être victime à un moment donné de sa vie d'un pervers narcissique.
Et alors, quand on est une victime, comment on peut s'en sortir? Bon, déjà, il y a quand même une certaine prise de conscience, j'imagine. Il faut réaliser que la personne est malsaine et toxique. Mais comment on fait pour s'en sortir après? Parce que justement, si la personne appuie sur ces failles-là, admettons, je ne sais pas, moi, je n'ai pas confiance en moi sur, je ne sais pas, le dessin. Si on me dit que si le pervers narcissique me dit « Ah, t'es vraiment nul en dessin », ben en fait, ça va me conforter déjà dans ma faille. Comment je fais pour m'en sortir?
Alors, il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. Pour se libérer de l'emprise d'un pervers narcissique, c'est un travail de longue haleine. Ça va se faire progressivement. Mais je crois que le premier conseil que je peux donner aux personnes qui ont la sensation d'être sous l'emprise de pervers narcissique ou en tout cas qui connaissent quelqu'un qui est sous l'emprise d'un pervers narcissique, c'est déjà peut-être d'apprendre à s'écouter. Écouter son corps, écouter ses sensations, écouter ses émotions, ce sont vraiment des signaux d'alarme que quelque chose ne va pas dans la relation et en vous, en fait. Donc écouter votre intuition, c'est déjà le premier conseil que je peux donner. Prenez conscience de l'ampleur de l'emprise petit à petit. En fait, c'est comme si la personne avait subi un lavage de cerveau, qu'une partie avait été anesthésiée. Donc, c'est normal que ça prenne du temps pour se réveiller de cette anesthésie-là et pour redevenir lucide sur ce vécu. Je dirais que l'autre étape, ça va vraiment être de sortir du déni. En fait, ça va être une étape primordiale pour bien conscientiser que cette relation est toxique et destructrice et que vous pouvez vous en défaire. Remettez l'attention sur ce qui est important pour vous. Apprenez à vous reconsidérer, car souvent la victime s'est complètement effacée, oubliée, éteinte petit à petit pour répondre aux attentes du pervers narcissique. Comprenez bien que le pervers narcissique, de par sa structure, vit dans un déni permanent et que la remise en question est extrêmement difficile. Donc c'est la protection avant tout qui va primer, et pour se protéger, l'autre étape, ça va être de fuir. Donc même si cela paraît être une étape logique et évidente dans ce cas de figure, en fait, ça peut paraître insurmontable, voire inenvisageable pour la victime, mais pourtant, mettre de la distance avec le pervers narcissique, c'est l'unique moyen de se protéger de sa toxicité. Donc, malgré la situation parfois délicate, rappelez-vous que le pervers narcissique a pour but de vous détruire et de se nourrir de votre énergie. Ce mode relationnel ne pouvait apporter que malheur et confusion. Il est nécessaire, du coup, de se tenir loin de lui. Et ça reste la solution la plus adaptée pour lui échapper. Dans les cas où on ne peut pas fuir, ça va être important aussi de se protéger dans la communication avec lui. C'est-à-dire, faites attention d'en dire le moins possible sur vous en termes d'affect, de ressenti ou de projet, car lui, il va chercher à se servir de ces informations contre vous, pour vous nuire. Maintenez un discours de surface superficiel. S'il vous adresse une phrase blessante, par exemple, voire désobligeante, ne répliquez pas. Répondez sans vous justifier, votre culpabilité le nourrit, donc sans vous excuser avec des phrases courtes, clair et sans affect, de type « si tu le dis, c'est ton avis, cela t'appartient, c'est ton choix ». Voilà, des phrases qui permettent de couper court à un échange avec le pervers narcissique. Ne montrez pas vos émotions, il s'en nourrit. Et plus il se nourrit, plus vous vous videz de votre énergie psychique et plus il prend le pouvoir sur vous. Donc essayez de rester calme et passif. C'est le pire châtiment à un manipulateur, le silence, le détachement. Et essayez, quand vous pouvez, de le confronter essentiellement en public ou en présence d'un tiers. Il y a aussi une autre étape qui est importante, c'est de sortir de l'isolement. Osez parler de ce que vous vivez à votre entourage proche. Sortez du silence, vous allez avoir besoin de soutien psychologique pour vous reconstruire. Et si le pervers narcissique vous a coupé de vos liens affectifs et importants pour mieux vous manipuler, n'hésitez pas à renouer le contact avec des personnes qui étaient importantes pour vous et qui peuvent comprendre ce que vous avez vécu et vous aider. Donc retrouvez un cercle sain. Ça peut être aussi prendre contact avec un thérapeute, un médecin, un groupe de parole, une association, chercher une assistance juridique peuvent être aussi nécessaires pour s'extraire de l'emprise. En tout cas, renouer avec l'extérieur, renouer avec une vie sociale, c'est important. Enfin, je dirais que la dernière étape, ça va être de travailler pour se reconstruire, en fait, travailler sur soi, se redéfinir. Restaurer l'image de soi, l'amour de soi, son estime, sa confiance, se reconnecter à son être profond, à ses rêves. Donc ça passe par la prise de conscience aussi de vos failles et de vos fragilités psychiques. Reconnaître aussi ses limites dans la relation à l'autre pour apprendre à les poser et à les faire respecter. Donc comme on l'a expliqué précédemment, ce sont vraiment les blessures qui sont le terreau privilégié des individus toxiques et c'est par ces failles qu'il s'est introduit. Donc pour travailler sur ces blessures, vous pouvez aussi vous faire aider auprès d'un thérapeute, bien sûr, qui va vous aider à comprendre, à mettre de la conscience et qui va vous aider à enrayer les processus inconscients qui ont permis à ce pervers narcissique de vous vampiriser. Et le fait d'apprendre à mieux vous connaître vous aidera à prévenir et à vous protéger dans vos relations futures. Et je crois que c'est bien de préciser que ça paraît très difficile quand on en parle comme ça, mais ce n'est pas impossible. En tant que thérapeute, que ce soit Daphné ou moi, on a des exemples en fait, de personnes qui s'en sont sorties, même si ça a été parfois long, même si ça a été progressif, donc c'est possible. Ne vous découragez pas, même si ça vous paraît insurmontable au départ, c'est possible.
D'accord.
Voilà.
Daphné, tout à l'heure tu parlais que c'était quand même un trouble de la personnalité, mm-hmm. du point de vue d'un pervers narcissique. Mais la question c'est, est-ce qu'il faut être le sauveur de cette personne ou pas ?
Quand on est victime, tu
ouais,
veux dire ?
Quand on est victime.
Alors je dirais que quand on est victime, déjà, s'occuper de soi et s'extraire de la situation, c'est la priorité. Et en fait, le fait est qu'on a besoin de s'en extraire, on a besoin de couper le lien, donc peut-être ma réponse serait plutôt non. Il ne faut pas être le sauveur et il ne faut pas essayer de se mettre dans cette situation non plus. Parce que déjà, dans ce moment-là, je pense qu'on ne peut même pas s'imaginer être le sauveur de quelqu'un quand nous-mêmes, on est au fond du puits, je dirais. Donc, non, plutôt essayer déjà de se remettre justement en priorité à un moment où on est tellement dévalorisé qu'on pense qu'on passe en dernier. Le travail va vraiment se porter là-dessus, hein, comme disait Pauline, de chercher à se revaloriser, à se réentourer et à recentrer un peu les choses et les décentrer justement de cette personne.
D'avoir justement, de prendre soin de soi, c'est ce que tu disais Pauline tout à l'heure.
Oui, complètement. De remettre l'attention déjà sur soi, ça va être vraiment la première étape qui va permettre la reconstruction, hein, de toute façon.
Ouais. Et dernière question, Pauline. On parle beaucoup de la perversion narcissique dans les relations amoureuses, mais ça peut être aussi au travail, en amitié, ça peut être dans toute relation.
Exactement. En fait, le pervers narcissique, on peut le retrouver vraiment dans tous les domaines. Et même si on a tendance à parler souvent surtout de la relation amoureuse, ce n'est pas le seul endroit de la relation où le pervers narcissique peut s'immiscer, en fait. C'est vraiment dans tous les domaines qu'on peut avoir affaire à lui.
D'accord. Alors, comment on peut te contacter, Pauline ? Sur les réseaux sociaux, peut-être ?
Alors, oui, sur les réseaux sociaux, ça peut être voilà, sur Facebook ou après via Doctolib. Mmh. Voilà, il y a aussi mon numéro de téléphone sur Internet, mon mail. Donc, il ne faut pas hésiter à me contacter, même si c'est juste par rapport à des questions. Voilà, je serais ravie d'y répondre. Voilà.
Donc Pauline Marty à Figeac.
C'est ça, exactement.
On ne l'avait pas dit jusqu'à maintenant. Merci Pauline, merci Daphné.
Merci Stéphanie,
merci à vous.
Merci.